Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et Hélène Bizio et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Juliette Delperroux. La gourmandise de ce matin, c'est l'avant-propos qu'Auguste Strindberg rédige en 1887 pour un récit qui met en scène sa descente aux enfers progressive pour cause de jalousie. Le texte s'appelle « Le plaidoyer d'un fou ». Voici le début. « Ceci est un livre atroce. Je l'admets sans objection, car de l'avoir écrit, j'ai un regret cuisant. Ce qui l'a fait naître, ce livre, la juste nécessité de laver mon cadavre avant qu'il soit enfermé pour jamais dans la bière. » Ambiance. Psychanalyste, écrivain et philologue né en Bulgarie, notre apothicaire de l'âme arrive en France pour faire une thèse sur le nouveau roman qui évoluera en thèse sur la révolution du langage poétique. Elle suit le séminaire de Barthes qui écrira dans un article intitulé « L'étrangère » qu'elle change la place des choses. Puis elle remet en cause le structuralisme pur et dur en concevant la fameuse notion d'intertextualité. Avant de s'encanailler avec le groupe de la revue Telle Quelle et de rédiger son œuvre foisonnante, elle a envisagé des études d'astronomie à Moscou. Notre apothicaire est une affranchie multiple et surprenante. « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces », disait Colette, une citation que notre invitée fait sienne. Elle s'intéresse à tout, écoute, assiste, lit, sonde, transmet. Elle fait croire au possible et nous voit comme des êtres en renaissance permanente. Elle s'est pourtant intéressée de près à la mélancolie, notamment dans son passionnant essai « Soleil noir », mais point de tempérament dépressif chez celle qui considère l'enthousiasme comme une endurance. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Julia Kristeva, je suis très curieuse de vous poser cette question. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Alors, c'est une présence permanente et en même temps une étrangeté absolue. Je suis une voyageuse, je crois que vivre c'est s'exiler et ça commence par s'exiler de la mélancolie. Il n'y a pas d'autre au-delà pour nous les descendants de la Renaissance et des Lumières qui ont coupé le fil avec la religion, il n'y a pas d'autre au-delà qu'au-delà de la mélancolie. Mais pour cela, il faut la côtoyer, la connaître et pas la dénier. Vous savez, il y a une recherche en psychanalyse, contrairement à ce qu'on dit, et une des premières choses que les psychanalystes freudiens, ou freudiennes plutôt parce qu'il s'agit des femmes en l'occurrence, c'est que nous passons tous par ce qu'ils appellent une position dépressive. Avant de parler, l'enfant devient dépressif. Ce n'est pas le mot, mais il paraît être dépressif parce que il exprime une tristesse. Au lieu d'être enragé, de sucer son pouce et ou son nounou, il se montre désemparé, angoissé par la mimique de son visage, par ses yeux. Pourquoi ? Parce qu'il accepte l'absence, il accepte d'être seul, il trouve le remède, c'est au lieu de dire « heureux », il dit « maman ». Donc le langage est né ainsi. C'est une manière de nager dans l'océan de tristesse.
Le premier objet perdu, c'est la mer, comme on va le voir plus tard.
Tout à fait.
Julia Kristeva, dans vos entretiens autobiographiques « Je me voyage », vous dites que vous n'êtes pas mélancolique. Mais dans une interview où vous parlez de Philippe Solers et de vous, vous dites « Je suis plutôt Jean qui pleure et lui, Jean qui rit ».
Mais Jean qui pleure n'est pas forcément mélancolique. Jean qui pleure reconnaît qu'il y a des douleurs, il reconnaît que la vie est un combat permanent, donc il n'est pas dans un absolu enthousiasme béat, mais Jean qui pleure est un sage. Parce qu'il sait dire les pleurs, leur donner des mots, chercher même par-delà les mots. C'est un artiste, Jean qui pleure.
J'ai l'impression, en lisant vos interviews, Julia Kristeva, que vous ne vous enfermez dans aucune programmation, aucun déterminisme. Parfois, on est coincé à cause de son passé, de ses idées noires où on se dit « ça va toujours se produire de la même façon ». Vous, à chaque moment, ça recommence. Comme quand on lance une pièce à pile ou face, tout peut arriver.
Écoutez, moi je suis née dans un pays totalitaire et la question de la mélancolie n'était pas au premier plan parce que les gens étaient dans l'endurance, dans le dépassement du mensonge. Donc il s'agissait de se dépasser soi-même et non pas de pleurer sur soi-même. Et la notion de mélancolie, même si le mot existe sans doute dans la langue bulgare, je dis sans doute parce que je la parle de moins en moins, elle s'est imposée cette notion en lisant les auteurs français. Et j'ai tout de suite compris qu'il y a deux manières de vivre la mélancolie. L'une, c'est de jouir avec une espèce de volupté dans la tristesse, dans tous ces états entre l'anxiété et la peur.
La complaisance.
La complaisance, et c'est en partie quelque chose qui se passe dans la foi orthodoxe, par exemple. Mais qui peut être, cette volupté, une manière de résister à l'automatisation des espèces humaines que nous sommes en train de devenir, et notamment, à l'époque, à l'automatisation par la technocratie communiste. Et il y a une autre façon, c'est d'essayer de trouver les langages à cela. Et mon père disait, il faut que mes filles sortent de l'intestin de l'enfer. Le communisme, c'était l'intestin de l'enfer. Je ne sais pas où il avait trouvé ça, il prétendait que c'est dans les évangiles, je n'ai pas trouvé, je pense que ça doit être dans quelque part chez Dante. Toujours est-il qu'en apprenant les langues étrangères, on était déjà dans cette espèce d'exil permanent, de voyage permanent, de changement d'objet. Et c'est une forme de multilinguisme, en fait. La malheureuse et grande Europe à laquelle nous appartenons maintenant n'a pas beaucoup d'excellence, mais là, une qui me tient à cœur, c'est le multilinguisme.
On va justement revenir à la puissance du verbe, à la parole, oui. Julia Kristeva, puisque vous allez convoquer dans quelques instants Alfred Hitchcock, l'expérience psychanalytique évidemment, Ella Fitzgerald, Cécilia Bartoli, Marcel Proust, une horloge astronomique, l'île de Ré et le sombre plaisir d'un cœur mélancolique, juste après un titre inédit d'Alain Bachung sur l'album posthume intitulé En amont, un titre à pirouette immortelle.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné? Que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes mortel. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait? Et toi qui n'es plus, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Julia Kristeva.
Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Second verse.
When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try?
Catch.
Doris Day, dans L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, version américaine et en couleur, sortie en 56 de son film anglais de 34. Julia Kristeva, vous avez choisi deux films, l'un pour la délicatesse de l'image, l'autre pour la pathétique détresse maternelle. Alors c'est l'autre qu'on entend et vous dites, la dépression maternelle accompagne la séparation mère-enfant que j'entends sur le divan, la reconnaître comme le fait le chant de Doris Day est la meilleure façon de sauver la mère et l'enfant. Faut peut-être le remettre en contexte dans l'extrait qu'on entend. Voilà, l'enfant ne va pas tarder à être kidnappé.
Oui, il y a deux versions d'ailleurs de ce film. La version de 56, je crois que vous avez, et une autre de 65. Ce n'est pas un des grands films de Hitchcock. Moi, je préfère Psychose ou Les Oiseaux. Mais ici, j'ai choisi cela parce que, d'abord, de la part de l'intellectuel que je suis, on n'attend peut-être pas vraiment Doris Day comme expression profonde de la mélancolie. Mais je trouve que c'est une manière à la fois publique, basique et très émouvante de parler de la maternité. Nous sommes une civilisation, nous l'Europe sécularisée, qui a le mariage pour tous, qui fait des procréations artificielles, etc. Mais nous n'avons pas de discours sur la maternité. Qu'est-ce que c'est que d'être mère? Comment vivre à la fois cet attachement, ces tensions, ces violences aussi de la relation maternelle? Et la recherche en psychanalyse dont je parlais tout à l'heure se consacre beaucoup maintenant à la relation précoce mère-enfant, pour voir comment, à la fois du côté de la mère, mais aussi du côté de l'enfant, la séparation se vit très difficilement. Et le rôle de l'analyste, c'est de restaurer ce lien, à la fois de le rendre tendre, voluptueux, comblant, et en même temps de permettre à l'un à l'autre de supporter l'absence.
Même lorsque l'enfant a une mauvaise expérience avec la mère, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en faire le deuil, même quand c'est lié à des moments très douloureux?
Parce que l'enfant humain naît inachevé. On appelle ça la néoténie. Le petit chat ou le petit oiseau, ils sortent assez vite de l'empreinte maternelle et se développent facilement. Mais l'enfant a besoin d'être accompagné, d'apprendre le langage et d'apprendre la relation à autrui. Et cet apprentissage suppose d'abord une très bonne relation avec le contenant maternel et ensuite l'introduction d'un tiers à l'intérieur du système. Donc tout ça demande énormément de finesse. Et dans Doris Day, nous avons l'histoire assez compliquée de toujours des espionnages, des choses mystérieuses. L'enfant va être kidnappé et il reconnaît sa mère parce qu'il entend sa voix. Et cette espèce de résonance quasiment pré-linguistique à partir de la mélodie, à partir des timbres de la voix, et me semblait très important pour montrer combien l'être humain est en dépendance vis-à-vis de cette altérité qui renvoie au corps maternel, à la voix maternelle, et sur laquelle va se construire la langue dite maternelle. Donc nous sommes là dans une question qui est à l'ordre du jour, qui est la question de l'identité. Identité nationale, identité post-nationale, qu'est-ce que cela veut dire? Mais si on prend les choses à la racine, on voit combien cette relation à l'identité est délicate et fragile. Et que pour accompagner des personnes qui sont en difficulté avec leur identité, comme par exemple les adolescents que je croise à la maison des adolescents et qui sont tentés par le djihadisme, il faut revenir à la base de l'émergence de l'identité. Et c'est là que se niche la mélancolie, c'est-à-dire la détresse, si je me sens abandonnée, si je ne suis pas satisfait, dès ce moment-là. Puis il y a évidemment la relation au père, la relation au groupe, mais la racine profonde est cette solitude et qui renvoie à la rupture ou à la non-satisfaction de ce premier lien.
Justement, Julia Kristeva, dans le second film que vous avez choisi, on s'attache à une femme âgée très seule qui a été mise à l'écart puisqu'elle a la lèpre et que au Japon, jusqu'en 1996, il y avait une loi qui mettait les lépreux dans des endroits spécialement dédiés. Ce sont Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase, sorti en 2015. Alors, c'est un film où on pleure pendant la moitié.
Oui, moi j'ai choisi ce film d'abord pour insister sur mon côté voyageur, sur le fait que les civilisations qui émergent depuis quelque temps déjà dans la globalisation nous interpellent et comment on reste sensible ou pas à la différence dans leur approche de la détresse humaine. Et je ne vais pas souvent au cinéma parce que ma façon de traverser la mélancolie, c'est de m'immerger dans l'écriture, qui est un art, si je puis dire, en tout cas une expérience très solitaire, exigeante et qui demande beaucoup de concentration. Et du coup, le cinéma me paraît un art très lent et un peu bavard et un peu trop spectaculaire, donc j'y vais pas souvent.
Et divertissant ?
Divertissant parfois, parfois pesant et ennuyeux. Mais j'ai des amis cinéphiles qui m'ont amené à voir beaucoup de films japonais et donc je les remercie. Et du coup, j'ai découvert cette manière de frôler les larmes et la dépression de manière à la fois très profonde et très tactile, très fugace, très délicate. Je trouve ce film qui s'appelle Délices de Tokyo extrêmement intéressant parce que, comme vous venez de le dire, il s'agit en effet d'une lépreuse qui va faire une espèce de Madeleine de Proust,
oui,
qui
des s'appelle pâtisseries aux haricots
Dorayaki, je crois que ça s'appelle en japonais. Donc c'est quelque chose qui comble nos absences, nos manques, etc. C'est un remède à la mélancolie, la bonne pâtisserie. Mais en même temps, c'est une femme qui porte en elle deux aspects de la dimension humaine qui nous renvoient à la mélancolie, c'est-à-dire une maladie abjecte qui provoque du dégoût et qui renvoie à une autre dimension qui mobilise beaucoup, c'est le handicap. Le fait d'avoir une exclusion pour cause de manquement à la norme.
Vous êtes engagé d'ailleurs dans ce domaine.
Voilà, j'ai accepté la proposition du président Chirac de présider pendant quelque temps le Conseil national handicap. Et puis, de manière plus profonde et plus universelle, la mortalité qui nous habite. Parce que cette femme, elle va mourir et les gens qui ont peur d'elle, ils ont peur, bien sûr, de la lèpre, mais ils ont peur de la mort en soi-même. Et donc, c'est cet aspect-là que je voulais qu'on mette sur le micro,
sur le divan,
pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle de dépression.
Et d'ailleurs, dépression, deuil, on y revient à nouveau avec le remède suivant, Julia Kristeva, puisque vous avez choisi l'expérience psychanalytique et vous ajoutez « Freud découvre que la séparation, la perte, le manque peuvent être transférés sur l'analyste et ainsi seulement traversés ». Vous parlez souvent du concept de Freud d'objet ambivalent comme source de la mélancolie, c'est-à-dire un objet à la fois aimé ou haï, ça peut être la mère ou un autre objet. Et en fait, quand on l'aime, on a du mal à s'en séparer. Et comme on le hait, on se dévalorise soi-même parce qu'on s'identifie à cet objet. Finalement, on se hait soi-même. Est-ce que c'est possible de dépasser ça ?
Mais il y a quelque chose de fascinant dans la relation à cet objet perdu qui est l'objet maternel, le sein. Puisque je l'aime, le sein, je ne pouvais pas vivre sans ça. Je le mets en moi, je m'identifie et donc je me le garde. Il y a un côté cannibalique dans cette relation à cet objet qui m'est nécessaire. Et en même temps, puisque je dois le quitter, que il, le sein, ou elle, maman, me quitte, je la hais, elle me hait. Donc il y a la haine que j'essaye de protéger et avant de l'adresser à cet objet qui s'en va, je me l'adresse à moi-même parce que je l'avais déjà avalé. Donc on est là dans cette volupté de cannibalisme mélancolique qui s'aime et qui se hait et qui est très difficile à déverrouiller. Mais on comprend combien ça peut être pesant dans la vie. Et surtout quand il s'agit d'une fille et de sa mère, les règlements de compte peuvent être très longs.
J'opine du chef.